singulière vision. Tout de cuivre vêtu, une machine fumante émerge de la brume de ce petit matin froid d'hiver. Un homme s'active autour d'elle. Il garnit la chaudière de bois et surveille jalousement le feu. Lui, l'homme, c'est le bouilleur de cru ambulant, le distillateur. Et elle, la machine, c'est l'alambic. Ensemble, dans un mélange d'odeurs vives et de vapeurs, ils attendent la naissance d'un divin breuvage, l'eau de vie. Aujourd'hui, cette image appartient presque au passé. Bouilleurs de cru et distillateurs ambulants sont de moins en moins nombreux. Bouilleurs de cru, distillateurs ambulants. Je vous sens surpris. Vous vous dites, c'est la même chose. Eh bien non, il faut bien faire la différence, comme l'explique M. Urgel de Saint-Antoine de Cumont.
Le distillateur et le bouilleur de cru, c'est deux choses différentes. Le bouilleur de cru, c'est la personne qui porte sa récolte à distiller avec son laissez-passer. Et moi, je suis bouilleur ambulant.
Alors, bouilleur ambulant, distillateur, c'est celui qui fait fonctionner l'alambic.
Le distillateur ambulant, comme moi, c'est un métier, ni plus ni moins.
Monsieur Thomas, de Neuvic-sur-Lille.
À la rigueur, n'importe qui peut s'inscrire à la chambre des métiers, tout en ayant droit, par le service des douanes, à avoir un alambic, et peut exercer la profession de bouilleur ambulant. Mais le bouilleur de cru, ça, c'est de génération en génération qui, malheureusement, est fini depuis 1960. Donc le client n'a plus le droit de distiller sa marchandise maintenant. Même qu'il soit agriculteur ou qu'il soit ce qu'il soit, s'il n'a pas ce privilège, il ne peut plus distiller sa propre marchandise.
1960, privilège. Monsieur Tochport, de Grèze, près de Terrasson, nous en dit plus.
Tout le monde qui était récoltant avait le privilège de distiller. C'était pas une loi, c'était un privilège. Mais un gars qui n'avait que 2 ou 3 000 mètres de terrain, qui avait des arbres fruitiers, il avait le droit de distillation, il avait toujours le droit de distiller ses 20 litres d'alcool de consommation. Ça a été jamais descendu ni jamais monté, mais ils avaient toujours droit à distiller 20 litres d'alcool de consommation. Et après, il s'est avéré qu'il n'y a eu que les propriétaires qui étaient en profession principale, qui avaient le droit de distiller, et il fallait, après ils ont mis la loi d'être propriétaire avant avril 60, donc ça a commencé à limiter ce qu'ils avaient le droit, et petit à petit, d'année en année, on perd des clients tous les ans. Moi je vois cette année, dans ma campagne, moi on a perdu une quinzaine ou 20 gars, quoi, propriétaires, hein, qui sont décédés, et le droit est transmissible conjointement. Mais s'il ne reste pas le conjoint, automatiquement ça s'arrête. Ce n'est pas la succession du fils qui gère l'exploitation, qui paye même plus de charges sociales souvent que ses parents. Ce n'est pas pour ça qu'il a le privilège de distiller.
Aboli sous la Révolution, puis rétabli à des fins politiques par Napoléon Ier en 1808, le privilège, c'est-à-dire le droit de distiller pour son propre compte 10 litres d'alcool pur, soit 1000 degrés par an et par bouilleur, sans payer de taxes, était héréditaire. Ce privilège, qui se transmettait donc de génération en génération, a été supprimé par l'ordonnance du 30 août 1960. Aujourd'hui, pour pouvoir faire distiller sa marchandise, il faut soit posséder le privilège des 1000 degrés, soit être propriétaire récoltant et payer des droits. Voyons la marche à suivre avec M. Levallois de Grand Brassac.
C'est-à-dire que la personne, si elle a du fruit à faire, elle fait une demande comme les autres, en régie. Et après, c'est Mucidan qui envoie la note à régler, vu le litrage qu'ils ont fait en fruits, surtout en fruits qui s'en fait, parce que les gens, c'est surtout pour de la prune ou des trucs comme ça qu'ils vont acheter quelques droits. Mais enfin, bon, mais les gens n'achètent pas beaucoup parce que ça coûte trop cher.
C'est de l'ordre de combien, par exemple, pour un litre?
Normalement, c'est 90 francs 60 le litre à 100 degrés à donner à l'État. En plus, après, 12 francs de façon, ce que je prends. Alors, les gens, ça les fait reculer.
Et malgré tout, il y en a quand même qui le font. Vous avez des clients dans ce cas-là?
Ah oui, j'en ai deux, moi. Deux clients, là, qui, tous les ans, ben, ils en achètent et ils achètent les droits pour eux et terminé.
Bouilleur de cru, distillateur ambulant, nous faisons maintenant bien la différence. Monsieur Coustilla, de Sainte-Lalie-d'Anse, n'est pas bouilleur de cru, il est distillateur ambulant. Écoutons-le nous raconter comment il est entré dans le métier.
Je suis devenu bouilleur ambulant en 1976, à la sortie de l'école, j'avais 16 ans, parce que papa était distillateur ambulant aussi. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est la quatrième génération. Alors voilà comment je suis devenu bouilleur ambulant, un métier qui me plaît beaucoup. Parce que j'aimais ça, et bon, j'aime ça. On travaille bien peut-être pour l'argent, c'est sûr, mais si on n'aime pas, c'est pas la peine. Moi, j'aime ça. C'est un métier qui me plaît. Et non, tout ce que je peux dire, c'est par passion. Parce qu'on cherche pourquoi, et parce que les fruits ne sont pas toujours faciles à distiller. Alors, non, c'est par j'aimais ce métier, et voilà comment je suis rentré dans la vie.
Si pour M. Coustilla, le métier est un héritage familial doublé d'une passion, les choses sont un peu différentes pour M. Simonet de Saint-Pierre-de-Col.
C'est un métier qui ne s'exerce que l'hiver, donc à la campagne, nos paysans en ont un peu de temps de libre. Et comme on n'a jamais été bien riche, il fallait aller gagner de l'argent où on pouvait. Alors j'ai été avec ce collègue-là. Et ça m'a fait quelques argent pour faire le jeune homme, et puis ça m'a appris le métier.
Ce qui vous a décidé en fait à devenir distillateur ambulant, c'est le fait de pouvoir avoir un revenu complémentaire, c'était ça qui vous a...
C'est surtout ça, oui. Parce qu'en principe, nous sommes à peu près tous, les bouilleurs qui restent, doublé d'un métier de paysan, de petit paysan. Et il y a juste, en principe, le président de notre syndicat, là, Guy Raymond de Saint-Laurent-sur-Manoir, qui continue le métier parce que son père en faisait un métier, lui. Mais lui, il a une entreprise de travaux publics et il continue à faire les clients de son père les week-ends, mais c'est pas son activité, et de loin, son activité principale, comme nous tous d'ailleurs.
Comme autrefois, la distillation ambulante reste aujourd'hui encore intimement liée à l'activité agricole. La majorité des bouilleurs de cru ambulants sont des agriculteurs et possèdent tous un ou plusieurs alambics. Monsieur Doche, de Coulounier-Chamier, nous raconte l'histoire de sa machine.
Oui, son histoire, elle est très ancienne. Puisque mon oncle l'avait acheté en 1927. Alors c'est un ancien modèle, je me souviens, c'est la maison de roi de Paris qui faisait à cette époque-là.
Même, je sais pas,
qui fabriquait. Et alors c'était un modèle qui était monté sur des anciennes, des roues comme avaient les charrettes à cette époque-là, quoi, en
roues,
bois.
Des roues en bois.
Des roues en bois, oui. Et alors après, par la suite, ça a été modernisé, on a monté ça sur des roues caoutchoutées pour pouvoir le déplacer plus facilement. Le châssis a été remplacé, du châssis en bois, on est passé au châssis fer, mais c'est toujours le même modèle, c'est-à-dire qu'il a été refait, puisque depuis les temps, il serait usé, mais c'est toujours le même modèle, qui fonctionne actuellement d'ailleurs.
Et votre oncle l'avait acheté neuf ou oui, d'occasion en 27
neuf. Il l'avait acheté neuf. Il l'avait acheté neuf, oui.
Il l'avait fait venir de Paris directement.
De Paris, oui, de Paris. Et il avait été exposé à la foire exposition de Périgueux. C'était parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas des quantités, quoi. C'était un nouveau modèle qui était fait pour distiller en une seule fois, parce qu'auparavant c'était, il fallait
à repasse,
tandis que celui-là était destiné à en une seule passe de faire l'alcool.
Oui, il y avait ce qu'on appelle un rectificateur. Il y avait,
oui, un rectificateur, c'était dans les premiers qui ont été faits.
C'était tout nouveau.
Ah, tout à fait, tout nouveau. Oui, d'ailleurs c'était un rectificateur à ce qu'on appelle à lentille, ça a l'aspect d'une, comme une soucoupe, avec des chicanes à l'intérieur, et c'était un des premiers.
Comme vous l'aurez sans doute deviné, il existe plusieurs types d'alambics. Les alambics à repasse et les alambics à rectificateur, que l'on classe en deux catégories, alambics à fenu et alambics à vapeur. Ceci, vous en conviendrez, mérite quelques explications. Pour les alambics à vapeur, le principe est le même que celui d'une cocotte minute. C'est la vapeur d'eau qui fait entrer la matière première, ce qu'on distille, en ébullition. En revanche, pour les alambics à fenu, c'est la chaleur de la flamme qui fait bouillir la matière à distiller. Les alambics à repasse sont les plus anciens. Ils distillent en deux fois. On fait donc bouillir les fruits pour obtenir un premier alcool que l'on nomme flegme ou brouillis. Puis, cet alcool est à nouveau porté à ébullition pour obtenir enfin l'eau de vie à 60 degrés. Pour l'alambic à rectificateur, le principe est le même, mais les opérations se font en une seule fois grâce au rectificateur qui permet de ne pas avoir à faire bouillir le premier alcool. Alors oui, mais comment ça fonctionne tout ça? Écoutons M. Doche de Coulounier-Chamier. Il possède un alambic à rectificateur, modèle le plus répandu dans notre département depuis les années 1920.
La première des choses, c'est de mettre du liquide dans la chaudière. Ne pas oublier avant d'allumer le feu. Mm-hmm. Voilà, de l'eau, ce qu'il faut. Et puis, il faut allumer le feu. Et c'est pas toujours facile. Si on est dehors, par mauvais temps, c'est pas... Alors ensuite, lorsque le liquide a commencé à chauffer, ben on continue à garnir l'alambic.
On met la grille.
On met la grille, on met la paille, on continue à mettre les matières qui doivent y aller. Et lorsque
il y a déjà le feu. Hein,
il y a le feu dessous. Oui. Et alors, lorsque c'est du marc, on attend. On garnit le plus possible, on attend, parce que à mesure que le liquide monte dans le mar, il se tasse. Alors, ce qui fait qu'on peut des fois mettre un petit peu plus dedans. Et alors après, il faut couvrir avant que la vapeur commence à s'échapper. On ferme, on installe le rectificateur et les tuyaux, tout ce qu'il y a pour qu'il le relie. Et puis après, il faut attendre un certain temps que ça soit porté à ébullition.
Et c'est à partir du moment où ça commence à bouillir que ça coule. Comment ça fonctionne à l'intérieur?
Eh bien, c'est-à-dire que l'alcool commence à s'évaporer, c'est-à-dire qu'à faire en vapeur, à 70 degrés de chaleur. Alors, le premier, c'est l'alcool commence à monter et il passe dans le rectificateur.
Alors, quel est le principe là, de ce rectificateur? À quoi ça sert et comment ça marche exactement?
Le rectificateur, c'est une espèce d'un récipient avec à l'intérieur des chicanes pour éviter que la vapeur traverse trop vite.
C'est pour ralentir.
C'est ralentir la vapeur. Mmh. Et alors, là-dessus, on amène de l'eau froide pour refroidir la surface supérieure, ce qui fait que la vapeur d'eau se recondense aussitôt. Parce que la vapeur d'eau est plus lourde que la vapeur d'alcool. Alors, il n'y a que la vapeur d'alcool qui passe, qui arrive à elle, qui est un peu légère, elle passe dans le tuyau, et comme le serpentin est plongé dans de l'eau froide, elle se recondense, et elle sort en alcool au bout. Et là, eh bien... La première eau de vie qui arrive coule fort, c'est-à-dire qu'aux alentours de 75-80 degrés. Et alors ensuite, à mesure que la chauffe avance, ça diminue. La teneur d'alcool diminue, et c'est là où il faut intervenir. Il faut arroser avec de l'eau froide le rectificateur pour maintenir la température, le degré d'alcool à une hauteur normale. C'est-à-dire qu'il faut, si on part avec à 80 degrés au départ, il faut laisser couler sans rectifier pendant quelques temps, de façon qu'on arrive autour de 60-65 degrés, et ensuite il faut commencer à rectifier.
Sinon
ça baisserait trop vite. Alors, parce que là, en fin de chauffe, on arrête à l'eau de vie à 30 degrés. Alors, ce qui fait que c'est la moyenne qui se trouve dans le récipient qui fait foi. Parce que là, et en général, lorsque les matières sont bonnes, ça démarre très haut. Mais s'il y a peu d'alcool dedans, et bien ça démarre des fois très bas. Et c'est là où c'est le plus difficile à faire.
La fabrication de l'eau de vie, c'est un peu comme la cuisine, chacun ses petits secrets. Pour empêcher la marchandise de brûler, certains distillateurs installent une couche de paille contre les parois de la marmite et d'autres l'enferment dans des sacs de toile de jute. Mais il est un point sur lequel tous sont d'accord, c'est le feu.
L'idéal, c'est d'avoir de bon bois.
Monsieur Tocheport, de Grèze, près de Terrasson.
Ou celui qui chauffe au mazout ou au gaz, c'est encore mieux. C'est sûr que celui qui a beaucoup de travail, ça vaut le coup de se mettre au gaz.
Alors vous parlez de bois, alors est-ce que vous utilisez un bois particulier
n'importe quoi? Les clients qui mènent le bois, ils mènent le bois qui est doux. Donc c'est du bois sec, c'est bon. Il faut du bois qui flambe, du bois qui soit sec. Parce que si du bois qui est vert, c'est pas la peine, ou qui est mouillé, ça vaut pas le coup. On peut pas distiller. Il faut du bois qui brûle, qui flambe.
C'est ce qui compte, c'est surtout la façon de chauffer.
Monsieur Urgel, de Saint-Antoine-de-Cumont.
C'est très important. Il ne faut pas, pour faire porter ébullition, il n'y a pas de problème jusqu'à l'ébullition. Mais c'est après, lorsque ça commence à couler, l'alcool, il faut être sur le qui-vive tout le temps. Il faut que ça chauffe régulier, pas trop fort. Sinon, il y a des inconvénients. Et si on veut faire de bon travail, que l'eau de vie soit bonne, il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut prendre son temps.
Ça, c'est le secret vraiment principal.
C'est un truc assez important, je pense. Avec ça, il y a beaucoup de propreté à respecter, tout ça. Il faut que les machines soient propres. Ça va de soi. C'est comme si on fait la soupe dans une marmite, on n'aura pas lavé de 8 jours. La soupe ne sera pas bonne. Mais là, c'est pareil. Si on n'a pas les alambics de X temps, vient un jour, où, même en mettant de bonnes matières dedans, on ressort de mauvaise eau de vie.
Alors justement, comment on les nettoie? Il y a des produits spéciaux, il y a des façons de faire particulières?
Les produits spéciaux, le meilleur produit, c'est la cendre de bois, pour les nettoyer, avec une éponge.
Ah oui, vous mettez de la cendre dans la marmite?
Puis on le frotte avec la cendre, avec une éponge ou un chiffon, et c'est là où ça se nettoie le mieux.
Ça ne donne pas de goût?
Aucun produit, non, pas du tout. Surtout aucun produit lessive, ni produits chimiques ni quoi que ce soit. Parce que si on met ça dedans, là, ça y est pour un moment. Et après, quand on le retrouve dans l'alcool, et l'eau dit que c'est pas tellement appréciable.
Un bouilleur de cru, un distillateur ambulant, un alambic, il ne manque plus que la matière première pour pouvoir fabriquer l'eau de vie. Mais au fait, que peut-on distiller? Monsieur Paza, de Saint-Astier, qui a exercé le métier de 1937 à 1947, nous répond.
On distillait pendant la guerre, surtout beaucoup de mal, des lits de vin, quand on soutire le vin, les fonds de barrique, et puis des prunes et des cerises. On distillait pas mal de cerises à l'époque. Il y avait des gens qui ramassaient les cerises. Mais après, c'était que maintenant, c'est des lits de vin et des prunes. C'est à peu près tout ce qu'ils font maintenant.
Et la pomme, la poire, vous en faisiez?
Le cidre aussi, oui, on faisait de l'eau de vie de cidre aussi. mais de cidre en liquide, quoi. J'en ai eu fait quelquefois de la poire ou de la pomme comme ça, mais c'était pas terrible, ça rendait pas beaucoup. Alors les gens, ils faisaient le cidre, et puis après, le cidre, entre parenthèses, il faut, quand on le fait au mois d'octobre, novembre, mais il faut pas le distiller avant au moins le mois de mai d'après, parce que ça fermente très doucement, et si on le distille un mois après, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool du tout.
Mais il faut longtemps pour fermenter.
Ah ben, il faut le laisser fermenter au moins 6 mois, le cidre, pour qu'il ait son alcool. Mmh. Ça fermente ça met très longtemps pour fermenter, parce que c'est la fermentation qui fait les degrés.
Si la fermentation des fruits a une grande influence sur le degré d'alcool obtenu, leur qualité n'est pas non plus à négliger. Alors, bonne ou pas bonne, comment savoir ? Monsieur Laborie, de Saint-Jory-de-Chalais, nous explique.
Bonne et pas bonne, ça dépend ce que le client amène. C'est que des fois, il amène du cidre qu'ils n'ont pas pu boire, parce qu'il n'est pas bon, alors il fera de l'eau de vie. Mais s'il n'est pas bon au départ, c'est pas en passant dans l'alambic que ça l'améliorera. Alors l'eau de vie est moins bonne. C'est tout.
Oui, la qualité de la marchandise au départ,
produit,
c'est
un temps. Si, une supposition, si vous avez du cidre ou des prunes dans une barrique qui a goût à moisi, automatiquement, l'eau de vie, elle aura goût à moisi. Hein. Ça ne l'enlève pas, hein. Et au contraire, en la buvant comme ça, on ne le connaît pas beaucoup, mais si vous avez le malheur d'en mettre dans le café, ou quand c'est dans quelque chose de chaud, alors ici, ça se connaît, hein, le moisi, ça ressort, hein, et l'eau de vie, il y aura goût. Hein.
Alors justement, comment vous reconnaissez un bon produit ?
Ben, je le reconnais, si je défonce une barrique de vendange, dès que les fonds tombent, on sent la vapeur, je sens si ça sent bon ou mauvais. Ou le cidre, quand on tire au siphon, si ça a goût à moisi, aussitôt au goût, j'ai pas besoin d'en boire, j'ai l'habitude, je le sens.
Alors on a parlé de la marchandise, de la matière première du début, et l'eau de vie qui coule, à quoi vous reconnaissez un bon produit, une bonne eau de vie ?
À l'odeur, de toute façon, déjà à l'odeur. Hein.
Monsieur Barra, de Siorac de Ribérac.
Parce que vous savez, quand l'eau de vie coule, la première coule, elle est très forte. Des fois, elle est chaude encore, au premier jet, donc c'est là où toutes les odeurs se dégagent. On voit si elle n'a pas un goût d'aigre, si elle n'a pas un goût de futé, un goût de piqué. Donc, tout de suite, c'est l'odeur. Au départ, c'est l'odeur. Après, vous avez la couleur, enfin la couleur, je m'entends. La limpidité, voilà, je sais où. Hein. Des fois, vous avez des eaux qui sont troubles. Quand elles sont surchargées de soufre, mais donc, vous voyez que les gens souffrent énormément leur barrique ou souffrent trop leur vigne, il arrive que ça passe à la distillation. Donc l'eau de vie se trouble à ce moment-là. Bon, c'est volatile, dans 3 ou 4 jours après, ça s'en partit. Si le gars laisse son eau de vie déboucher, ça va s'en aller. Hein. Voilà. Mais bon, c'est une bonne qualité, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez l'odeur, la limpidité, puis la façon dont elle coule aussi. Parce que si elle coule comme de l'huile, c'est une excellente eau de vie. Vous voyez que si elle coule et qu'elle écume au fond de la bassine, en tombant, ça écume, vous voyez, bah, c'est une eau de vie qui est pas excellente de qualité, quoi. Qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool ou moins.
Placé sous le contrôle des douanes depuis le 1er janvier 1993, l'activité des distillateurs et des bouilleurs de crus était auparavant régie par le service des contributions indirectes, rattaché aux services fiscaux. La période légale de distillation est fixée du 1er octobre au 31 mai. Durant cette saison, qui dure donc 8 mois, pour exercer leur activité, les distillateurs sont tenus de s'installer dans des ateliers publics, comme nous l'explique M. Robert Datur.
On ne peut pas choisir les emplacements, ils sont choisis d'avance. Ce sont des ateliers publics. Ici, par exemple, je ne peux pas dire au contrôleur, ne venez pas, je suis chez moi, ne venez pas. Non, c'est public.
Et qui est-ce qui définit donc ces emplacements ? C'est fixé comment ?
Ces emplacements, je viens d'en faire déplacer un, puisque ici je n'avais pas le droit, il était un peu plus loin. Là. Il faut une délibération du conseil municipal qui est expédiée aux douanes, et ce sont les douanes ensuite qui en décident.
Oui, qui avalisent, qui donnent l'accord,
voilà,
ou
voilà,
pas.
Ou pas. C'est eux les seuls maîtres.
D'accord.
Le maire est le premier maître, mais pas complètement. Voilà.
Et quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour installer un atelier? Qu'est-ce qu'il faut?
C'est-à-dire, pour installer un atelier, il faut que ce soit sur un lieu public, c'est-à-dire sur un chemin communal ou sur une place publique, où autrefois, l'eau de vie se faisait beaucoup sur des places publiques. Parce qu'il faut toujours, ça porte bien son nom. C'est un atelier public. Tout le monde a le droit de venir. Hein.
Puis il faut qu'il y ait de l'eau aussi.
Ah ben oui, bon, d'abord il faut qu'il y ait de l'eau. Ouais. Mais par exemple, si un autre bouilleur voulait venir ici chez moi s'installer pour faire quelques clients, je ne peux pas l'empêcher. Moi, ici c'est un atelier public, donc si quelqu'un veut venir s'installer là, à côté de moi, ben je ne peux pas l'empêcher.
Ah oui, il peut y avoir plusieurs bouilleurs sur un même atelier.
Oui, ça ne se fait plus. Puisque nous ne sommes plus assez nombreux, mais autrefois, sur une place publique, dans une commune, vous aviez des fois 3 ou 4 alambics, et chacun avait sa clientèle.
Ce que j'ai connu, là, je ne faisais pas le métier à l'époque.
Monsieur Martial, de Mihac de Nontron.
J'ai connu une période qu'on n'avait que 8 jours pour faire toute une commune, pas plus. Alors, tous les bouilleurs se trouvaient ensemble, mais tout dans le bourg. Ah oui, tous ensemble. Et à 5 heures... Il fallait ramener on passe à l'école de signes qui court. Il fallait les ramener à la régie tous les soirs. Et le lendemain, aller les chercher. Ah, c'était. J'étais tout à fait gamin, moi, j'allais à l'école, on voyait ça, en passant comme ça.
Ouais. Oui, dans les villages comme ça, donc il y avait plusieurs distillateurs,
après,
en fait.
Après, ils ont mis les ateliers dans les villages. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'atelier ailleurs que dans le bourg. Mais ça n'a pas duré, ça. C'était un embouteillage monstre, d'ailleurs. Il y avait 500 mètres à l'époque, il y avait beaucoup de bouilleurs. Et chacun avait ses clients, là. Ça avait, non, c'était pas. Ça n'allait pas, quoi.
Ouais, ça faisait beaucoup de monde tout d'un coup, alors.
Oui, un embouteillage, vous dites. Vous ne pouvez pas passer à pied, c'est tout. Des deux côtés, il y avait des chaudières. Et ils portaient l'eau à ce plein seau à l'époque, il n'y avait pas de pompe, et il fallait la porter à 100 mètres des fois l'eau. Ça n'a pas marché longtemps, ça. Mais on parle de ça. Oh, c'est vieux. J'allais à l'école, d'ailleurs.
Est-ce que vous déplaciez votre alambic? Comment ça se passait?
Ah ben, au début, avec un cheval.
En 50, c'était avec le cheval?
Oui, avec un cheval, oui.
Monsieur Charenton, de Bassillac.
On avait des brancards, on mettait un cheval. Et puis après, bon, on a fait moderniser, on a mis un attelage et on s'est déplacé avec un tracteur. Mais au début, de 50 à 60, avec un cheval, un gros cheval, un comptoir. Et on le laissait dans le... Si on avait pour 2-3 jours, on le laissait chez le... Chez le client, lui dit, bon, tu me gardes mon cheval, là, et puis de cet atelier, on allait à un autre.
Et c'était le client qui hébergeait le cheval?
Oui.
À chaque fois?
Oui.
Ou bien
oui.
Vous le rameniez ici?
Oh non, on le laissait sur place.
Ah oui.
On le laissait sur place. Et oui, parce que comme on ne restait pas longtemps au même atelier, ou alors, quelquefois, on se faisait déplacer de tel endroit à tel endroit par un voisin qui avait un cheval. Par exemple, d'ici, on pouvait aller en tonne avec un cheval. Danton, quand on est à Sarriac, c'était notre client qui venait vous chercher.
Et combien vous pouviez faire de kilomètres comme ça dans une saison avec le cheval attelé à l'alambic?
De kilomètres, je ne sais pas moi, une cinquantaine peut-être.
Si on ne se déplaçait pas loin, en revanche, on se déplaçait beaucoup. Il n'était pas rare que l'alambic change d'atelier public presque tous les jours. Mais à l'avènement du tracteur, les déplacements devenant plus faciles, beaucoup d'ateliers furent supprimés pour n'en conserver aujourd'hui qu'un ou deux par commune et regrouper ainsi les clients en un même lieu. Nous l'avons dit plus haut, l'activité des bouilleurs de crue et des distillateurs est contrôlée par le service des douanes. La réglementation est stricte. Ainsi, quelques jours avant le début de la saison, le bouilleur ambulant doit faire une demande de décellement, c'est-à-dire demandez aux douanes d'enlever les scellés posés sur l'alambic à chaque fin de saison. De même, lorsqu'il déplace sa machine pour se rendre dans un atelier public, le distillateur doit avertir les douanes 3 jours avant afin d'obtenir un permis de circuler. On pourrait encore dire beaucoup sur les obligations légales, mais nous retiendrons seulement 2 autres points. Les bouilleurs de crue ambulants doivent remplir et tenir à jour un registre, le fameux DISTER, où figure entre autres le nom du client, la quantité de matière à distiller, les heures de début et de fin des chauffes et la quantité d'eau-de-vie obtenue. Enfin, distillateurs et bouilleurs sont tenus de respecter les heures légales d'enlèvement de l'alcool. Même si la marchandise a été distillée le matin, le client ne peut repartir avec son eau-de-vie que le soir, à partir de 18, 19 ou 20 heures selon les mois, ceci pour permettre aux douanes d'exercer un contrôle.
J'avais que peur d'être, de pas être en règle.
Monsieur Paza de Saint-Astier.
Et on l'était jamais parce que il fallait inscrire aussitôt, alors avec le boulot que ça donnait. Quelquefois on n'avait pas le temps d'inscrire sur le livre, sur le distère, et il pouvait arriver qu'on était en tort même en étant en règle, quoi. Ça pouvait arriver, ça.
Eh ben, c'est bien facile de se faire attraper à travailler après l'heure. Travailler avant l'heure.
Monsieur Tocheport de Grèze, près de Terrasson.
Dépasser les droits du privilège, il ne faut pas grand-chose, ils sont là, ils sont faits pour ça, hein. Ça peut arriver. Hein.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on risque?
Eh bien, on risque une amende, qui est assez sérieuse.
Ouais. De combien?
Oh, ça, j'en sais rien, parce qu'au moins que je ne me suis pas fait ramasser, mais ça va loin. Ouais. Ça va, des fois, je reçois loin. Jusque des fois, si c'est trop grave, à arrêter la distillation.
À côté des contrôles et de la réglementation, aspect contraignant de la profession, la tradition a su préserver de bons moments, ceux où l'on se retrouve pour les casse-croûtes et les repas autour de l'alambic, comme en témoigne M. Thomas de Neuvik.
Allez, on va maintenant tomber en flotte. Là, on va avoir l'appétit,
quoi. Oh, mais ça, c'est la tradition, ça, oui. C'est le casse-croûte à l'alambic, c'est... Tous ceux qui viennent à l'alambic, en général, qui ne connaissent pas trop, c'est surtout pour le casse-croûte. C'est la base, ça. Après, bon, ils viennent pour la curiosité aussi, mais bon, la base, c'est ça, c'est le casse-croûte. Le matin, en arrivant, celui qui arrive, le client en général qui commence le matin, c'est la tradition, ils amènent toujours le casse-croûte. Alors après, bon, il y a toujours un voisin qui vient, on discute, bon, ça en a un autre qui arrive. Mais la base, c'est le casse-croûte, hein.
En fait, c'est assez convivial autour de l'alambic, on se retrouve.
Ah oui, oui. Même je vois dans les petits villages, des fois on va dans des petits villages, c'est vrai que les gens ils se parlent même plus parce que quand l'alambic vient, ça leur fait un point de discussion, ils viennent là se rejoindre, alors des fois ils me le disent. C'est vrai, on est voisins, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, alors ils habitent à 500 mètres. Alors bon, l'alambic ça permet aussi un peu à renouer. Des discussions, ils se retrouvent un peu en truc.
Ah ben là, c'était formidable.
Monsieur Paza de Saint-Astier.
Parce que les gens sont très accueillants, c'est vrai, dans le Ribéracois partout, d'ailleurs, les gens sont très accueillants. Les gens venaient, même quand il faisait mauvais temps, quand ils n'avaient pas, ils venaient à la chaudière pour discuter. Mais enfin, c'était sympathique parce que. Ils venaient là comme dans le temps, quand on allait faire ferrer une bête chez le maréchal, il pleuvait, les gens venaient pour parler. Là, c'était... On n'avait plus le temps que maintenant. Et on travaillait beaucoup, mais on se levait, c'est vrai, de bonne heure, mais on avait, je ne sais pas, c'était pas la même vie du tout. On avait plus de temps libre, malgré qu'on travaillait beaucoup, je ne sais pas comment c'était. Ça m'arrivait des nuits que je ne me couchais pas, qu'on allait jouer aux cartes.
On faisait la fête une fois que la distillation était finie.
Le soir, eh bien, on allait souper à la maison, quelquefois on jouait aux cartes toute la nuit, parce qu'on ne me couchait pas, ça arrivait. Mais à l'époque, j'étais jeune.
« Retrouvailles, fêtes, convivialité, l'alambic a longtemps joué un rôle social dans nos campagnes, et si ces notions sont moins vivaces que par le passé, elles existent toujours. En revanche, on consomme beaucoup moins d'eau-de-vie qu'il y a une trentaine d'années, comme le souligne M. Urgel de Saint-Antoine-de-Cumont.
Oh oui, par rapport à... Il y a 30 ans de ça, il s'en boit.
Beaucoup moins.
Oh là. Je me rappelle, j'étais tout jeune, moi, à l'époque. Les battages à la ferme, la batteuse sur place, dans la cour. Et à la fin du repas, il y avait le café, il y avait la goutte. Et la goutte après, bon, mais le soir, ils faisaient le brûlot. Les gens, ils mettaient du sucre dans un saladier. Le feu, ils faisaient brûler ça. Puis ils buvaient ça, après, avec une louche, ils mettaient ça dans les verres, à demi-verre. N'empêche que quand ils avaient chanté pendant 2 heures, le soir, après, ils allaient dormir. Bon, mais c'était... Ils se buvaient peut-être 1 litre ou 2 d'eau de vie dans les battages, comme ça, à chaque maison. Que maintenant, une bouteille fait 2 ou 3 ans. La plupart des gens n'en boivent pas. Ou alors juste une petite goutte pour parfumer le café, mais ils s'en boivent pas.
À côté de la consommation courante de l'eau de vie, il existait aussi une utilisation médicinale, comme nous le raconte M. Charenton de Bassillac.
On s'en servait pour quand on avait une vache qui était malade. On lui faisait boire de l'eau de vie avec du vin quand elle était. Quand elle avait veillé. Ou une vache qui a mal, une patte, on lui frottait les pattes avec de l'eau de vie. Si, oh, mais c'est pas. À la campagne, les gens, pour faire les piqûres aux vaches, quand un vétérinaire venait, il vous disait, tapez un peu de gnôle, là. Alors on leur faisait le. On leur frottait les jambes, moi, enfin, ou ailleurs, avec la goutte.
Pour désinfecter. Donc.
Pour désinfecter, oui.
Mais par contre, il arrivait qu'on leur fasse boire de l'eau de vie mélangée à du vin.
Avec du vin, oui. Ah oui. On mettait un quart de litre, on mettait trois quarts de vin et un quart de goutte. Et on lui faisait boire. Mais c'est le vétérinaire qui nous le disait quelquefois. Des bêtes qui avaient vélé, qui ne pouvaient pas se relever. Qui étaient... Un petit coup de fouet. Ouais, on faisait boire ça, la bouteille, bien chaud, là. Ça n'arrivait pas tous les jours, hein, mais enfin. Ouais. Ça se faisait.
Et on l'utilisait comme ça, sous forme de remède, uniquement pour les animaux, ou il arrivait aussi que pour les personnes, on s'en serve sous forme de remède?
On faisait des grogues le soir, quand on était arrivé, parce que les gens ne se soignaient pas il y a 50 ans comme maintenant, il n'y avait pas toutes ces piqûres-là qu'on fait maintenant. Je me rappelle quand on était gosse, nous. Gosse, ça fait grand. Le soir, quand on était bien rhumé, on mettait un verre de goutte dans une casserole, on mettait du sucre, on le faisait brûler, et on le buvait, bien chaud, et on allait au lit. Et alors, le lendemain matin, la grippe était passée, on transpirait à grosses gouttes. Voilà, c'était comme ça.
Si certaines de ces pratiques subsistent encore, elles sont surtout employées par nos anciens. Les personnes possédant le privilège de distiller 1000 degrés d'alcool pur en franchise sont maintenant âgées et disparaissent petit à petit. Les bouilleurs de crus ambulants ont de moins en moins de travail, au grand regret de beaucoup d'entre eux, comme M. Urgel de Saint-Antoine-de-Cumont.
Pour moi, c'est un très beau métier, mais malheureusement, c'est que... D'ici quelques temps, bon, il n'y aura plus rien de nous qui existera, quoi. Les machines seront détruites et nous avec. Mais c'est dommage parce que c'était des traditions qui dataient de Napoléon qu'on aurait pu conserver. Ça ne porte tort à personne, je crois pas. Bon, même si quelquefois il y en a quelques litres qui passent outre la loi, et on aurait pu conserver ce truc-là, je pense. C'est un tort de la part de nos dirigeants d'avoir aboli ce truc-là.
Je ne pense pas que les droits vont disparaître.
Monsieur Coustillas, de Sainte-Lalidance.
Ils feront quelque chose pour... Nous, ce qu'on demande, c'est un allègement des taxes. Ce qu'on revendique, c'est l'allègement des taxes. Et moi, ce qui me fait que j'y crois, c'est que de plus en plus, on voit les vieux métiers à la télé, comme de faire le cidre, de faire l'huile de noix, la batteuse sur cale. Alors, je pense qu'il y aura quelque chose pour ça, pour l'alambic. Les gens reviennent aux sources. D'ailleurs, on le voit maintenant, la culture bio, le pain bio, tout ça, bon, il y a de l'évolution, on revient aux sources.
Et même si beaucoup de vos confrères disent « Oh, il n'y en a plus pour très longtemps, dans quelques années », vous, pour vous, c'est pas ça?
Non, moi, j'y crois pas du tout à ça. Les gens le disent, il n'y en a plus pour très longtemps, bon, ça va être fini. Non, moi, j'y crois pas. Parce que ce qui le fait dire, c'est que, vous voyez, le pain, on l'achète, on ne sait pas comment il est fait. Tandis que l'huile de noix, on casse des cerneaux, on ramasse des noix, on casse des cerneaux, on les amène chez le gars qui fait l'huile de noix et on les fait moudre devant vous. Il le fait cuire et il presse l'huile de noix et il la fait devant vous. Le cidre, c'est pareil, vous ramassez les pommes, vous les faites moudre, vous buvez du jus de pomme fabriqué. Et l'eau de vie, c'est pareil. Vous amenez la matière première à l'alambic, vous restez avec le distillateur et vous la faites devant vous. Et vous mettez ça dans un fût, dans une bonbonne ou un truc en grès. Et vous faites déguster ou vous faites des liqueurs avec. Et c'est de votre produit que vous avez vu faire. Voilà, c'est pas trafiqué. Je veux pas dire que le reste soit trafiqué. Hein. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais là, au moins, on le voit faire. C'est pour ça que je crois que ça ne peut pas disparaître, c'est pas possible. On revient aux anciennes méthodes.
Quelle image est-ce que vous avez de votre métier?
Le dinosaure, exactement.
Monsieur Barra de Sciorac de Ribérac.
C'est fini. C'est malheur, ça. Hein. C'est un malheur. Hein. C'est un malheur. Hein. Nous avons une voie en voie d'extinction. Hein. Vous nous regretterez plus tard, vous verrez. Vous nous regretterez, c'est sûr. Ça s'anime dans ces petites campagnes, vous savez, c'est quand le bouillon arrive, c'est formidable, quoi. C'est voir ça, c'est formidable. Ouais, voilà.
Et si on revenait en arrière, vous referiez le même choix de faire bouillir ambulant?
Tout à fait. Je regrette rien, hein. Je regrette rien, loin de là. Hein. Ça m'a amené des joies, bon, des peines comme tout le monde, mais vraiment, beaucoup de joie aussi. Pas des fortunes, mais des joies.